dans Shitlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. À l'occasion de la sortie de The Fall Guy avec Ryan Gosling et Emily Blunt et réalisé par David Leitch, déjà derrière le nullissime Bullet Train dont on avait fait le portrait à la rentrée, on va vous parler de la dernière fois où Ryan Gosling avait interprété un cascadeur et aussi un chauffeur exceptionnel, The Driver, dans le film de Lego Maniac, Nicolas Meling Refn. Un film qui avait fait sensation à sa sortie en chopant également le prix de la mise en scène au Festival de Cannes. Ce polar urbain très simple a eu un impact extrêmement fort dans la pop culture, entre popularisation de la synthwave, remise en avant de la stylisation de l'ultra-violence qu'on retrouvera dans les jeux vidéo comme Hotline Miami, lancement de la carrière de Nicolas Meling Refn à l'international avec une aura de futur Stanley Kubrick, et aussi un nombre incroyable de masculins en mal d'amour propre qui se sont identifiés aux personnages extrêmement instables et teubés de Gosling dans le film. Maintenant que les retombées sont passées, que reste-t-il de Drive quasiment 15 ans plus tard? Est-ce toujours un film aussi incroyable que la presse et les spectateurs ont acclamé? C'est ce qu'on va essayer de déterminer dans ce podcast. Je suis Luc Lodec et aujourd'hui, pour déterminer avec moi si oui ou non Drive de Nicolas Meling Refn mérite la shitlist, je suis accompagné de Marvin Montes, auteur, podcasteur sur Flash Forward. Bonsoir Marvin.
Bonsoir. Très bon goût en matière d'automobile dans ce film, il faut le dire.
Oui, il y a de la voiture. Il y a de la voiture. Ouais, moi, mon côté professionnel de l'Argus, là, ça a pété un plomb.
Ouais,
c'est incroyable.
On fera de la pub à la fin.
Ah, l'Argus Porn. L'Argus Porn. Et Karim Berania du podcast Le Début de la Fin. Salut Karim.
Salut tout le monde. J'ai pas de vanne après ça, les gars.
Je vais commencer avec cette question con, bien sûr. Votre relation au cinéma de Nicolas Meling Refn. Et je vais commencer avec Marvin.
Je comprends pas ce qu'il fait. Non, vraiment, je ne comprends pas.
Tu parles par rapport au Club des 5 qui est sorti là récemment, c'est incroyable.
Je ne comprends pas cet homme, mais ce qui me rassure, c'est qu'il ne se comprend pas non plus, je pense.
Ouais, lui.
Donc, voilà. Non, je ne comprends pas son cinéma. Je trouve que ça n'a aucun sens, mais de temps en temps, fulgurance, quoi. Tu vois, c'est vraiment le réalisateur à fulgurance. Alors, je pense qu'on pourra expliquer ce soir peut-être pourquoi. En fait, hein, y a des cas particuliers, Drive en fait partie, quoi. Mais c'est quelqu'un que j'ai du mal à saisir. Je pense qu'il est persuadé d'être un génie. Alors, c'est plutôt une bonne chose, c'est bien d'être persuadé d'être un génie, vraiment. Et qu'il est persuadé d'avoir énormément de personnalité, je pense qu'il n'en a pas du tout. Voilà, je pense que c'est une somme d'influence un peu foutraque, qui se mélangent et qui font Winding Refn, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'il cite beaucoup dans tous les sens, et ça, peut-être que finalement, ça lui crée un semblant de personnalité, je suis pas sûr. Mais voilà, c'est quelqu'un dont je comprends absolument pas la filmographie, vraiment pas du tout.
Donc pour toi, c'est une énigme, finalement.
C'est une énigme, mais pour lui-même, c'en est une aussi, probablement, donc bon, c'est pas très grave.
Pour moi, c'est un personnage. En fait, il joue un personnage.
Oui,
il joue
mais
clairement
c'est...
un personnage. C'est le... Voilà, c'est juste qu'il se fait une image de... De petit génie égomaniaque. Enfin,
non, bien sûr. Après, je parle pas du tout de sa personnage. Je m'en fous, en fait, de comment il est en interview ou quoi. Tu vois, c'est pas grave. Mais vraiment, dans son boulot, je comprends pas, en fait. Tu vois, genre, je vois pas d'étape claire, de cheminement clair dans cette filmo. Voilà. C'est compliqué. Entre les moments où il passe son temps à citer des gens, les moments où il essaye un peu d'être quelqu'un,
oui.
C'est vachement dur. Je n'arrive pas à savoir. Vraiment.
Je peux comprendre, mais après, moi, c'est pas quelqu'un non plus qui est. Je comprends sa filmo, entre guillemets, dans le sens où c'est assez toujours les mêmes sujets, en fait. Et, donc, concrètement, pourquoi il en parle, je sais pas, tu vois. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui a grandi dans le crime ou dans la mode. Enfin, peut-être dans la mode, un petit peu, je pense, parce que c'est.
le crime, la mode.
C'est un fils de monteur. Le milieu de la pègre, tu vois, bon, ça, je pense que c'est une fascination comme tu peux avoir quand t'es ado, quoi, mais le truc après, de la mode, par exemple, je pense que c'est un truc qui vient de ses parents, parce qu'ils sont, je crois que le père est monteur, mais je sais plus si sa mère, elle travaille là-dedans, justement, donc il y a quand même un espèce de goût bourgeois par rapport à ça, et je pense qu'il est quand même, c'est pour ça qu'il a beaucoup de trucs là-dessus aussi.
Il y a un truc rigolo, c'est qu'il essaie absolument de se donner cette image d'anticinéphile, tu sais, genre, je sais pas si vous avez déjà vu une interview de lui...
Je crois que c'était pour combiner, il faisait n'importe quoi.
Oui, ou alors vraiment, du coup, pour le coup, il se fout absolument de tout, tu vois, genre, où t'as l'impression qu'il connaît rien, enfin, il le fait exprès, tu vois. Alors que pourtant, c'est le prototype du réalisateur cinéphile, tu sais, genre
oui,
le mec qui cite tout le temps quelqu'un.
Ah. Pour moi, c'est un utilisateur de Letterboxd, hein.
Mais voilà, c'est ça.
Là, genre, non, clairement.
Littéralement, chaque plan de. Bah, en plus, dans Drive, je pense qu'on est au summum de la citation absolue.
Ah oui,
coup.
Oui.
Mais,
on verra après, ouais.
On le verra après, mais ouais, il y a ça partout, quoi. Je pense que chaque plan de chaque film peut être pris quelque part.
Ah, cité, ouais. Ouais, il n'hésite pas à demander même aux réalisateurs qui sont encore en vie de dire je peux te faire un petit peu une dédicace.
On va y revenir.
Un plan.
Je pense qu'on va y revenir.
Non, mais clairement, c'est ça, quoi. Mais pour moi, c'est. Alors, il a commencé comme étant un peu le Jean-Luc Godard de la pègre. Hein, parce que Pusher, c'est vraiment le. À bout de souffle, en fait. Version
version chauve
la drogue,
voilà.
Ouais, mais version criminelle, pègre, danois, quoi. Et je trouvais que le fait d'utiliser la caméra à l'épaule, de faire que tout est extrêmement rushé, enfin, t'as l'impression que tout est pris sur le vif, ça marchait super bien, en fait, dans Pusher. Et après, c'est vrai que la trilogie Pusher, c'est-à-dire le 2 et le 3, je vous raconterai, c'est quand même une fun fact, hein, parce que normalement, il ne devait pas avoir de Pusher 2 et ni de Pusher 3. Moi, après, Bronson, par exemple, tu vois, j'en ai rien à foutre.
Ça va.
Pas vraiment ça. Moi, j'adore, par contre, moi, ce que j'aime dans son cinéma, c'est quand il est lâché, tu vois. Quand genre il y a plus de limites, genre quand il y a pas qu'un producteur, quand c'est pas, tu sais, quand il écrit vraiment ses propres trucs, là ça me fait marrer. Et quelque part c'est presque du Baz Luhrmann, tu vois, dans le sens où je vois ce qu'il fait,
moi je vois
et
pas,
j'accepte, moi. J'accepte, ah ouais. malgré le bordel.
Moi, ouais. quand justement il a personne, quand il fait les choses,
ah,
seul,
ouais, j'adore.
Que ça donne Only God Forgives. J'abandonne au premier karaoké, clairement. Enfin, je dis, voilà.
Ah, mais c'est. Mais non. Meilleure scène de karaoké, mec. Qu'est-ce que tu fais chier?
Faut arrêter.
C'est ça le cinéma, frère. C'est ça le cinéma. Only God Forgives, c'est incroyable. Neon Demon, j'adore. Copenhagen Cowboy, qui était sur Netflix, incroyable. Par contre, bon, j'ai pas fait le, tu sais, la série sur Prime Video où il y a Kojima. Je crois que c'est Too Old to Die Young.
J'ai pas vu.
J'ai pas testé. Je suis pas encore à ce niveau, mais faudrait que je le fasse. Mais j'aime bien sa stylisation, en fait, parce qu'il me rappelle quelqu'un. Parce qu'il me rappelle quelqu'un que j'adore.
Oui, bah, de toute façon, il rappelle toujours quelqu'un. C'est ça son problème.
C'est clairement, il a assez de même recherche un petit peu surréaliste, un peu de David Lynch quelque part, oui. dans sa filmo, et c'est ce que malheureusement c'est sur ce truc-là où je me fais attraper, en fait. Enfin, moi,
je comprends, hein.
Vraiment con sur ce cas-là, quoi. Et j'adore ça, en fait. J'adore cette utilisation même de la violence, le côté ces concepts métaphysiques qui te font au milieu de film, ou même les moments où tu sais ils se regardent et t'es là, vous allez vous parler au bout d'un moment. J'adore. Tu vois, mais c'est bête,
ouais.
Complètement con, mais c'est des trucs qui m'attrapent, moi, à chaque fois qu'ils me cueillent. Et oui, il y a des fulgurances. Oui, il y a des moments, c'est naze. Mais il y a des moments, ouais, effectivement, tu peux pas le relier en disant, ouais, c'est quand même, il y a des beaux plans, il y a des scènes, des séquences qui sont, voilà, qui sont chocs et qui fonctionnent très bien. Mais après, c'est vrai que je peux comprendre, c'est le bordel. Dans son truc, il a aucune, il sait pas trop ce qu'il fait, je pense.
Non, il sait pas ce qu'il fait. De toute façon, on a vu des documentaires où on voit très bien qu'il ne sait pas ce qu'il fait.
Oui, bah c'est le documentaire. Alors il y a le documentaire qu'il avait fait avec Fredkin, quoi. Il parlait de.
Oui, mais ça c'est un bonus. Mais je parle de le documentaire sur le tournage de Only God Forgives, où tu te rends bien compte
c'est sa femme.
Qu'il a aucune idée de ce qu'il est en train de faire. Et le film crie tout le temps, je ne sais pas ce qui se passe. Enfin voilà, c'est clairement.
Oui. Enfin, Ryan Gosling a adoré, hein, à tel point qu'il va imiter ses films pour en faire le sien derrière.
C'était infernal, c'est d'ailleurs.
The Lost River.
Oh mon Dieu, quel enfer.
Ah, c'était incroyable.
Ouais.
Non, mais après, il a une personnalité, moi, que j'adore détester. Tu vois, il a une personnalité petit con, il chie sur Lars von Trier. Tu sais, le moment où il est en train de défoncer Lars von Trier en disant que c'est un putain de nazi, que c'est un gros con. Alors que Lars von Trier,
alors que c'est un peu le même.
Oui, c'est dans deux cas différents, parce que c'est vrai que Lars von Trier a cassé les couilles à tout le monde avec le Dogma, avec Winterberg. Il a une personnalité complètement fucked up. J'aime bien ses films, hein, mais il est fucké de la tête, hein, Lars von Trier. Et c'est vrai que bon, Nicolas, t'es pareil un petit peu, quoi. Tu vois, quand on voit par exemple le bonus de Sorcerer. Où c'est Refn qui essaye de dire à Fredkin, ouais, bah regarde, moi mon film Only God Forgives, c'est incroyable.
Non, mais c'est même pas qu'il dit ça, c'est qu'il dit je suis toi, il dit ça, c'est mon sorcereur ou je sais plus quoi. Et en fait, ouais. En voyant ce bonus, je me suis dit, soit il est totalement foilé, soit il est bête. Et je sais pas, du coup.
Bah là, c'est bête. Là, c'est vraiment con parce qu'il se fait attraper.
Il est entre les deux. Mais bon.
Mais c'est assez fou. La séquence est lunaire, hein, quand Fredkin est en train de péter un plomb face à lui en disant mais t'es vraiment trop con.
Ouais. Revoyez ça.
Et ce qui est bien, c'est qu'il a découvert son alter ego japonais.
Oui.
Ouais, grave.
Hideo Kojima.
C'est un problème. Ça va devenir un gros problème.
Il est pas dans Death Stranding, Refn. Il joue
si,
pas.
Si.
Alors, c'est son modèle ouais. 3D. C'est pas lui qui joue, en fait.
Non, mais il est quand même là.
C'est doublé.
Il est quand même
là. Ça va devenir un problème, peut-être un jour.
Ah oui. C'est assez fou, je trouve. Kojima, c'est pareil. Hein. C'est la même tendance, hein, je pense, que lui.
Je pense qu'ils prennent, mais moins, ça a l'air vraiment bien, en vrai.
Un peu. Ah ouais, non, mais des fois.
Ils sont très instables, les deux, de la même manière. Tu vois, c'est des gens qui ont du talent. Tu vois, c'est indéniable. Tu leur mets un truc entre les mains, ils font un truc extraordinaire. Mais ils ont. Alors, j'ai moins fait référence.
Ah ouais, une personnalité fuckée aussi. Ah ouais.
Ouais, mais c'est un peu frustrant, des fois, quand même, tu vois, de voir des gens, tu vois.
Parce que là, vraiment. Le fait qu'ils se. Tu sais, on avait cette histoire là, de Metal Gear Solid 5 où il s'était fait virer au milieu de production, là. Comme quoi, ça a été la merde chez Konami. Il l'a cherché. Moi, je te dis, il l'a cherché. C'est clairement un mec imbérable aussi, hein, je pense, Kojima, dans l'idée. Donc, ouais. Mais je suis content qu'il trouve des amis, comme Nicolas Winding Refn, parce que je l'aime bien. Voilà, d'accord. Tout simplement. Okay. Karim, de ton côté.
Beaucoup moins qu'avec vous, parce que j'ai clairement pas platiné, platiné le bonhomme. Après, pour moi, c'est un mec qui... Je sais pas, la seule constante que je trouve chez lui, c'est un rapport à l'ultra-violence stylisée et à toujours chercher le plan, l'hommage, mais surtout à chercher à faire le cinéma avec des guillemets à chaque fois qu'il fait un truc. Mais ça reste quand même un mec, je trouve, quand même qui est assez talentueux, parce que ça marche, hein, je veux dire, ça marche. Après, voilà, j'ai pas fait tout ce que vous avez fait, donc j'ai pas non plus un avis complet sur la filmographie. Mais j'avoue que quand on parle Refn, j'ai tendance à penser, oui, il y a de l'ultra-violence stylisée, il y a des plans chiadés. Beaucoup, parce que mon introduction, c'est avec Drive. Et j'ai fait d'autres trucs après, j'ai vu Bronson après, et j'ai vu d'autres trucs après. Mais voilà, donc un avis moins calé que le vôtre là-dessus, mais quand même sympathisant. Parce que c'est quand même, ça reste quand même, même si on sait pas laquelle, ça reste quand même avec de la personnalité quand tu es dans tout le truc. Et juste sur Drive, moi j'avais un souvenir que ça a été un film qui a pas du tout été vendu comme ce que c'était, tu vois, par exemple.
Non, c'était vendu comme un Fast and Furious.
Mmh. Ouais, donc quand
imagine la déception. Non, mais tu vas voir un Fast and Furious, tu prends cher. Hein.
Ouais, ou l'inverse.
Bon, après, le plan de la course poursuite met à l'amende les premiers Fast and Furious. Hein.
Ah, grave.
Oui, bah tous. Hein.
Grave.
Ouais.
Vraiment.
Oui.
Donc, Refn, pour moi, voilà, je veux dire, c'est pas grande connaissance. Voilà, un mec qui se la touche un peu, mais qui fait ça bien. Et qui a véritablement un problème avec la stylisation. Avec le fait de donner du style à la violence. Donc, ça laisse toujours, vu que j'ai un côté un peu psychopathe, toujours un peu d'attrait quand même.
Okay. On va vous lancer directement la bande-annonce du film. Prenez-vous un petit peu de Kavinsky, bien sûr, dans les oreilles. Vous allez être ravis de revenir dans les années 2010.
Ouais.
Hey, avant de lancer la bande-annonce, sachez que vous pouvez prolonger l'expérience Shitlist en nous soutenant sur Patreon, en souscrivant au Shitlist Plus à 5€ par mois. Cela vous permet d'accéder à tous les épisodes exclusifs de Shitlist, en plus des épisodes en avance, sans pub. Lien en description de l'épisode.
Vous me donnez une heure et un lieu, je vous donne un créneau de 5 minutes. Pendant ces 5 minutes, je vous lâche pas. Il peut arriver n'importe quoi. Je suis là. J'interviens pas pendant le braquage. Je porte pas d'armes. Je conduis.
Vous venez d'arriver à LA ?
Non, il y a un moment que je vis ici.
Vous faites quoi dans la vie ?
Des cascades dans les films.
C'est pas trop dangereux ?
C'est qu'à mi-temps.
Salut.
Salut.
Ah, vous vous connaissez ?
Arrête.
Vous le mettez derrière un volant, il n'y a rien qui l'arrête.
Gamin, je te présente Monsieur Bernie Rose.
J'ai les mains un peu sales.
Ouais, moi aussi.
Qui c'était ?
Des mecs qui veulent me foutre sur un coup, mais moi je veux pas et je leur ai dit.
C'est quoi le coup ? Rendez-vous dans 5 minutes.
Dans 4 minutes.
Vous savez qu'il y aura une deuxième voiture.
Il a dit qu'elle serait là en cas de besoin.
À qui il est, ce fric ?
Écoute-moi bien. Si qui que ce soit apprend ça, toi et moi, on est morts.
C'est quoi ce que t'as là ? C'est un de ces types qui te l'a donné ?
Tu leur as parlé direct !
Calme-toi !
Ça te rappelle quelque chose ?
Non.
Si t'avais le moindre rêve, des projets d'avenir, va falloir tirer un trait dessus. Tu vas devoir regarder derrière toi le restant de tes jours.
Alors, Drive, sorti en 2011, adapté du roman Drive de James Salis, paru en 2005. Scénario écrit par Hossein Amini, qui écrira par la suite, attention, accrochez-vous, Blanche-Neige et le Chasseur et 47 Ronin, qu'on a déjà parlé dans
et la moitié des épisodes de la série Obi-Wan.
Quand même des grands artistes nous ce soir.
Il y avait du monde sur le dossier.
Ah ouais, parce que celui, c'est pas fini, attention.
C'est pas fini.
Réalisé donc par Nicolas Winding-Refn et épaulé à la photo par Newton Thomas Siegel, le chef-op de Bryan Singer.
Alors,
donc le mec qui a éclairé les X-Men, tous les X-Men,
Usual Suspect éventuellement. Bon, voilà.
Ouais, voilà. Je suis d'accord avec Marvin.
Parce que tu sais que, enfin bref, il y a un problème, il y a un truc de syndicat et tout dans la production américaine. Et je me suis dit à quel point Nicolas Winding-Refn à marcher sur le travail de ce chef-op.
Oh non, je pense que c'est l'inverse.
Musique de Cliff Martinez, Kavinsky, Desire et College. Budget serré de 16 millions de dollars quand même, soit autant que Bienvenue chez les Ch'tis de Danny Boone. Produit par une armée de producteurs indépendants, dont Mark Platt, le futur producteur de La La Land et Babylon. 4 boîtes de production totale, 7 producteurs pour nous raconter l'histoire d'un trentenaire flippant nommé The Driver, incarné par Ryan Gosling, qui se prend pour un cow-boy le jour à Hollywood pour le cinéma en tant que cascadeur et la nuit pour les truands. Mutique, problème relationnel avec une fâcheuse tendance à rester à regarder ses interlocuteurs un peu longtemps. Il y a son propre code de conduite, jamais il n'a pris part au crime de ses employeurs autrement qu'en conduisant, jusqu'au jour où il décide d'aider son voisin, un ex-tolard, qui est le mari de la meuf qu'il essaye de se taper en la stalkant. Voilà, très très bon, très très belle histoire, j'aime beaucoup. Marvin, d'ailleurs, concept philosophique grâce au film, parce que j'ai appris beaucoup sur la philo grâce à ce film-là.
Ah bah bien sûr.
Es-tu le scorpion ou la grenouille?
je m'attendais pas à cette question.
Ça, t'as dû l'écrire, mec.
J'ai clairement pas préparé de réponse, quoi.
Non, j'ai cherché la signification de ce putain de truc de scorpion, et effectivement, c'est un vrai truc de fable. C'est une vraie fable.
D'accord.
Qui est racontée
effectivement.
Dans le film, en fait.
D'ailleurs, Winding Refn est très fier de définir son film comme étant un conte inspiré des frères Grimm. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant pour ouvrir ce truc, c'est que, comme d'habitude, pour lui, Drive, c'est... Ah, c'est-à-dire qu'on lui a demandé plein de fois qu'est-ce que c'est. Et il a dit c'est un conte des frères Grimm, c'est un hommage à Jodorowsky, c'est un hommage à Kubrick, c'est un hommage au monde entier. C'est tout et c'est rien à la fois.
C'est un film humaniste. Et voilà,
moi,
ça parle à tout.
Et moi, ce que je disais au début, c'est que je comprenais pas sa filmo et que parfois il y avait des fulgurances parce que je pense que c'est quelqu'un qu'il faut cadrer. Tu vois, je pense vraiment que c'est quelqu'un qui doit être cadré parce que sinon c'est compliqué. Et ce qui est miraculeux dans Drive. Et ce qui, pour moi, en fait officiellement une fulgurance de sa filmo, parce que je le dis tout de suite, j'aime beaucoup le film, en fait, c'est que il maîtrise rien dans la production du projet, dans le sens où c'est absolument pas son idée. C'est-à-dire c'est un projet de Neil Marshall avec Hugh Jackman, hein, à l'origine, quand même.
C'est un projet de Mark Platt qui a chopé le livre.
Qui
a dit
pas du tout la même chose.
Du coup, en fait, le livre, normalement, c'est un truc non linéaire. Ça raconte plus ou moins la même chose, sauf la relation.
Ouais. Et puis il y a plein d'amour. De flashbacks aussi.
Voilà. C'est un peu un bordel. C'est le scénariste qui a dû remettre un petit peu l'ordre là-dessus. Ça a été, oui, effectivement, c'est Mark Platt qui a pris les droits d'adaptation du livre directement à la sortie, parce qu'il trouvait que l'histoire pouvait rappeler un peu Bully et tous les trucs avec McQueen ou Clint Eastwood, quoi. Vraiment, un mec, tu sais, haute valeur jusqu'à en mettre au péril de sa vie, tu vois. Le vrai samouraï.
Bien sûr, c'est ça.
Et pour le coup, effectivement, le premier projet qui était extrêmement drôle, parce que c'était Neil Marshall, le réalisateur de The Descent et Doomsday.
Oui, et d'autres trucs, hein, parce que tu cites des trucs que les gens aiment bien, mais...
Les gens connaissent,
avec Hugh Jackman...
Mais Hugh Jackman, attends, avec un truc de fou, c'est que le mec perdait la boule parce qu'il faisait trop de films. En gros, c'était un cascadeur qui perdait la boule parce qu'il faisait trop de films. Et n'importe quoi. Mais un film d'horreur, en fait.
Pourquoi pas.
Avec Hugh Jackman.
Avec Hugh Jackman. Effectivement. Et donc, oui, voilà, ce qui se passe, c'est que Winding Refn, il se retrouve finalement là parce que Ryan Gosling l'adore. Et que quand il signe, il conseille Ryan Gosling à la prod. Et il se retrouve là avec un projet qu'il n'a pas vraiment choisi, avec un scénario, du coup, qu'il n'écrit pas, puisque c'est une adaptation qui est écrite par Hussein Hosseini, c'est comme ça qu'il s'appelle, avec un chef-op qu'il n'a pas choisi. Et en fait, je pense que tout ça, finalement,
ça
lui rend service, en fait. parce que vraiment, là, on a plein de choses structurelles qui manquent beaucoup d'habitude dans sa filmo, c'est-à-dire une structure narrative. Une photo cohérente. Voilà, des choses qu'il n'a pas maîtrisées et qui sont dans Drive.
De l'autorité, en fait, dans le plateau.
Voilà, en fait, c'est-à-dire l'autorité dans le plateau et un acteur complètement à son service. Voilà, ce qui est des choses qu'il n'a pas souvent, en fait, pendant son parcours. Et il a tout ça dans Drive. Et je pense que ça fait un espèce de miracle, oui, qui fait que le film, déjà, est beaucoup plus, on va dire, structurellement sain que ce qu'il fait habituellement. Puisque clairement, on n'est pas dans un processus de roue libre comme le film suivant, par exemple.
le karaoké, mec, le karaoké.
Le karaoké, si tu veux. Et que oui, bon, pour le coup, c'est un film qui porte assez fièrement ses influences les plus évidentes, quoi. On a parlé du film de Walter Hill, de Steve McQueen, de tous ces trucs-là. Clairement, on a une espèce de réinterprétation de ce personnage-là, passé un petit peu à la moulinette Refn, parce qu'il y a quand même des choses qui pourraient lui appartenir, mais qui sont surtout la résultante de ce à quoi il essaie de ressembler. Parce que voilà, comme on a dit, il a cité 50 000 trucs comme référence, comme influence. Je pense qu'il a dit n'importe quoi. Franchement, je pense honnêtement qu'on lui demande ce que c'est, il dit n'importe quoi. Un hommage à Jodorowsky, ok, pourquoi ? Kubrick, pourquoi ? Enfin, je veux dire, il cite n'importe quoi. Mais par contre, il y a des...
C'est le Kubrick de la bagnole.
C'est le Kubrick de la Ford Mustang. Mais par contre, il y a des choses qu'on voit, et c'est un truc qui m'a beaucoup frappé. Du coup, et on va faire le lien avec ce fameux bonus de Sorcerer, c'est que oui, j'ai été frappé par le total mimétisme de Drive avec un film de Friedkin, en fait, qui est Tully Venda in L.A. J'avais jamais remarqué.
French Connection aussi.
Ah ouais, non, mais Tully Venda in L.A., je veux dire, c'est littéralement, sur plein d'aspects, le même film. J'étais super frappé de ça. C'est-à-dire que, ouais, on a la même thématique narrative principale, c'est-à-dire qui est celle de filmer déjà Los Angeles un petit peu à l'opposé de son image glamour. Enfin, il y a tout est fait pour ne pas glamouriser la ville. Alors, il y a ces fameuses anecdotes comme quoi on filme pas les quartiers les plus huppés, justement, on les évite sciemment, même quand, normalement, géographiquement, on doit passer dedans, on n'y passe pas, tu vois. Fait de montrer L.A. comme étant un truc, finalement, assez pourri, quoi.
Urbain et triste. Hein.
Assez triste, avec des gens qui sont tous relativement tristes. Et puis, comme dans tous les Venda in L.A., c'est quand même l'histoire de gens qui passent leur vie à essayer de montrer qu'ils sont autre chose que ce qu'ils sont vraiment, quoi. Voilà, c'est ça. Pendant tout le film, on a des gens qui se font passer pour quelque chose d'autre et qui finissent par se révéler. Et c'est quelque chose qui marche très très bien dans Drive, quoi. Justement, ça colle vachement bien avec ce côté de la violence à laquelle on te prépare pas. C'est un truc qui marche vraiment beaucoup dans Drive, quoi. C'est-à-dire que c'est un film qui passe son temps à faire des pay-in et qui te donne quasiment pas de pay-off. Par contre, les pay-offs sont vraiment super impactants, quoi. Il y a cet emblème de la fameuse scène de l'ascenseur où, oui, pour le coup, t'as la première moitié de la scène qui est la personne qu'il essaye d'être, c'est-à-dire qu'il est gentil, serviable, etc. Et puis l'ultra-violence qui vient ensuite avec...
Oui, parce que c'est en plus le choix, le fait que ce soit Ryan Gosling, le fait qu'il soit propret,
le fait qu'il soit
en fait vraiment dégueulasse, et ça marche bien, je trouve.
Donc non, ça m'a frappé de voir à quel point il se prenait totalement pour Friedkin pendant Drive, quoi. Il y a des plans sur la route qui sont littéralement les plans de la poursuite de French Connection. Il y a la citation avec les fameux lieux de la poursuite de police fédérale Los Angeles. Voilà, je veux dire, vraiment, j'étais vraiment surpris de ressentir autant de mimétisme. C'est un truc qui m'avait complètement échappé les fois précédentes, quoi. Et c'est ce qui m'amène à penser que vraiment, enfin, je pense que Refneux, ça peut être un réalisateur vraiment efficace. Je trouve pas génial, mais en tout cas très efficace quand il digère un peu les trucs et qu'il les recrache. Voilà. Et j'ai du coup pas vraiment de problème avec Drive, parce que c'est probablement le projet dans sa vie dans lequel il a été le plus cadré et où vraiment ça déborde pas, quoi. Je veux dire. Voilà, il y a une gestion qui est du malaise, par exemple, qui ne déborde pas dans l'autre sens, comme on aura dans les films suivants. Voilà, je veux dire, c'est vrai qu'il y a une espèce de malaise ambiant qui est probablement créé par la direction d'acteur qu'il a posé à Ryan Gosling, hein, parce que y a des passages de dialogue et de non-dialogue qui sont quand même terriblement malaisants. Et puis...
Non, mais c'est même... C'est débile.
Non, mais en fait, c'est pas loin.
Ouais, mais ça marche.
Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a vraiment un truc qui est brillant dans le film, alors c'est, encore une fois, c'est pas de son fait, c'est Ryan Gosling dans le rôle principal. Je pense vraiment que c'est la plus grande réussite et c'est la plus grande plus-value du film. C'est-à-dire que t'as ce mec-là qui, pour le coup, ressort pas plus que ça du casting, tu vois, qui est plutôt, qui a un physique à cette époque-là relativement banal, tu vois, qui est une espèce de coquille vide à laquelle n'importe quel incel du coin pourra s'identifier. Ce qui a clairement fonctionné. Hein. Bonsoir, Luc Le Gouillet.
Je t'en parlerai. Ouais.
Et en fait, il y a quelque chose de brillant dans ce choix ou ce non-choix de Ryan Gosling, c'est qu'il est toujours sur une espèce de frontière où il est à ça du ridicule, mais vraiment à ça de la non-crédibilité absolue. Voilà.
Ce qui en fait un des plus grands humoristes.
Ah bah, non, mais les scènes où il menace des gens, tu vois, où il essaye d'avoir ce regard hyper menaçant, où tu sais pas si tu dois rire ou pleurer, tu vois. Et en fait, bah, ça rend le film absolument brillant et ça marche super bien, quoi. Je veux dire, c'est hyper cohérent avec les pay-in que le film te met dans tous les sens, tu vois. Avec ce personnage-là que tu ne penses pas pouvoir avoir ce parcours. C'est pour ça que l'ultra-violence est vraiment impactante, parce que venant de ce personnage, normalement, c'est impossible. C'est impensable au début du film, en tout cas. Et donc, ça marche vraiment bien d'avoir choisi un acteur qui colle absolument pas avec la fonction qu'il a. Parce que c'est littéralement un personnage fonction. Enfin, le truc absolu, voilà, bah, je veux dire, il s'appelle The Driver, c'est pas compliqué, quoi.
Mais, oui, mais c'est comme, moi, pour moi, c'est un Alain Delon, ça m'aurait, hein.
Ouais, voilà, c'est un peu ça, mais clairement, c'est un peu ça, quoi. Donc voilà, c'est vraiment un truc que je trouve brillant dans Drive, c'est l'utilisation de Ryan Gosling, quoi. C'est vraiment d'être sur cette ligne-là, du quasi-ridicule, sans jamais complètement tomber dedans, quoi, et finalement rester crédible, un peu miraculeusement jusqu'à la fin, quoi. Donc ça marche. À côté de ça, peu importe quel chef-op il a eu le droit de prendre ou pas, je trouve quand même le film super réussi. Hein, et encore une fois, je veux dire, l'influence de tous les 29 LA, je la ressens là, parce que c'était aussi ce film-là qui partait d'un polar pour finalement faire du surréalisme. Alors, de manière, on va dire, un peu plus expressionniste, baroque que dans Drive, hein, pour le coup. Mais il y a quand même un petit peu de ça, quoi. Donc, 15 ans après, bah, moi, je trouve que ça marche toujours très bien. Et on n'a pas parlé de l'évidence, mais c'est que les scènes de poursuite sont super réussies, en fait. Je veux dire, pour le coup, en plus, on a du vrai travail pratique avec plein de cascadeurs, dont Ryan Gosling en fait une, il me semble. Et ça marche vraiment super bien. Il y a un sound design qui marche vraiment extrêmement bien.
Le montachon est fou, hein.
Donc, non. C'est un film qui marche toujours aussi bien, peu importe l'interprétation qu'on a été faite et la récupération qu'il y a eu par des gens un peu bizarres après. mais bon, ça, c'est pas.
Je t'avais passé une vidéo YouTube, Marvin, d'ailleurs.
Oui, folle. Il y a un lien avec le truc tout à l'heure. Genre, je vous dis juste le titre, c'est Drive. Et c'est quoi Drive et quoi Drive est une leçon est ou un truc comme ça.
De spiritisme.
Voilà, une leçon de spiritualité, en fait. Genre, il faut être comme ça dans la vie. Voilà.
Chaud.
Mais c'est pour ça que je t'ai posé la question. Es-tu la grenouille ou le scorpion?
Ah bah non, mais là, je. J'ai du mal à choisir un camp. Mais en tout cas, allez voir cette vidéo. Enfin, on mettra peut-être pas le lien de ce genre de truc, c'est pas bien. Mais bon, il y a une interprétation bizarre autour du film. Enfin, tout ça pour dire que Drive, j'ai pas grand-chose à en dire, à part c'est un projet où Refneux est bien dans sa fonction de réalisateur, finalement. Il déborde pas tant que ça du cadre. C'est pas son projet le plus personnel, puisqu'il s'éloigne quand même.
Bah non, parce que c'est pas lié à ça.
Ah non, mais dans le sens où même... graphiquement, tu vois, picturalement, ça n'a pas grand-chose à voir avec la suite, par exemple. Et je pense que c'est parce qu'il est cadré...
Peut-être pas picturalement, mais mise en scène, oui, un petit peu.
Ouais, et puis parce que c'est très maîtrisé comme truc, quoi.
Oui, bien sûr.
Truc qui va perdre un peu. Et que parfois, il n'a pas eu avant. Mais pour le coup, je pense qu'en tout cas, c'est un de ses projets les plus sérieux et un de ceux qui... Enfin, pour moi, c'est vraiment le top de sa filmo encore aujourd'hui, quoi.
Le top de la filmo de Refn pour Marvin. Alors... juste, je vais revenir un peu vite fait parce que c'est pas sa première incursion dans le marché américain.
Non.
À Refn, parce qu'il en a eu une en 2003 où il a foiré, en fait. C'était Drive, en fait. En gros, c'est sa seconde incursion. Mais il a fait la tentative avec Inside Job ou Fear X en VO, qui était un polar, en fait, avec John Turturro, qui est dans la même veine que Lost Highway, dans le délire, en fait. C'est, en fait, en gros, c'est John Turturro qui joue le rôle d'un agent de sécurité dans un centre commercial, en fait, qui a perdu sa femme assassinée dans le parking du centre où il bosse. Et en fait, il devient obsédé par cette histoire, et il devient complètement zinzin, en fait, par rapport à ça. Il a toutes les photos, toutes les personnes qui étaient là le jour de sa mort et tout, sur un mur et tout, avec des câbles et tout, des petites fils. Il se tape toutes les bandes de caméras de surveillance constamment pour voir qui est le tueur, enfin... Bref, le mec, complètement zinzin. Puis finalement, il arrive, il y a un truc qui fait que l'histoire avance, mais ça devient un truc très métaphorique, enfin très, très surnaturel, très surréaliste. Et c'est un délire un peu vraiment la Lost Highway. C'est-à-dire que c'est un truc à interprétation. C'est-à-dire que tu vois le... Soit tu vois le verre complètement plein, soit tu vois pas du tout ce qui se passe, en fait. Et du coup, c'est un film absolument invendable.
Ouais.
Et qui s'est planté. Qui s'est planté et qui a foutu, en fait... Refn dans la merde. Il avait une dette de 1 million de dollars, en fait. Il est retourné chez lui en Danemark. Mm-hmm. Et en fait, il a dû, en fait, pour essayer de s'en sortir, faire des suites à Pusher, qui n'étaient pas prévues, en fait. Mm-hmm. Et donc, la trilogie Pusher est née de là, en fait. Le 2 et le 3 viennent de ça. Et il a dû, en fait, faire une espèce de de triptyque, en fait, sur l'univers un peu les gangsters, quoi.
Ouais, c'est clairement Europe, pas un truc qui appelait à avoir 3 épisodes. Ça... Si vous les avez
non,
vu, vous
verrez
que
pourtant, ouais, Pusher 2 est un peu faible, mais le 3, je le trouvais
ça,
bien.
Ça remonte un peu, ouais, mais bon, tu sens quand même que... Bon,
oui, c'est forcé, quoi. Ça galère.
Le dernier galère. Truc aussi que j'ai remarqué par rapport à ce que je disais, par rapport à Friedkin et tous les Vénalinénais, c'est vraiment aussi le truc qui est au centre du film, c'est la BO. C'est-à-dire que t'as la même dichotomie aussi que dans Police Fédérale Los Angeles, quoi. Où t'as, tu sais, la BO à l'époque, c'était, on va dire, le truc post-Miami Vice, un peu bling bling pendant qu'il filmait des trucs horribles. Et t'as vraiment la même dynamique dans Drive, quoi. D'utiliser la BO, tu sais, un petit peu rétro-futuriste ou.
Alors, ça c'est un truc important. Avec la musique, c'est un truc important.
Ce truc
ça c'est un truc important dans Drive parce qu'en fait ils voulaient des titres, enfin Refn voulait des titres électroniques sous forme de balade un petit peu. Donc en fait il a fait appel à Johnny Jewel qui à son label Italian Do It Better que j'ai découvert grâce à Marie Clémentine, que c'est génial. En fait il fait lui Johnny Jewel fait partie du groupe Desire et Chromatics et en fait il va choper dans son catalogue pour Refn, il va dire bon voilà j'ai c'est tu choisis dans ton catalogue, il va prendre Under Your Spell et Tick of the Clock, je crois, de Chromatics, et qui, en fait, fonctionne extrêmement bien, parce qu'en fait, fait partie, en fait, ces chansons-là sont dans la tête du personnage, en fait. Fait partie, en fait, de comment montrer les émotions du personnage au travers de la musique. C'était aussi, alors, Cliff Martinez, lui, du coup, l'ancien batteur des Red Hot, s'est ajouté au dernier moment. Lui, en fait, devait singer le style de musique que proposait, en fait, Jewel derrière.
Mmh. Ouais, c'est pour ça qu'en fait, t'as peu de points de repère entre les morceaux, on va dire, intradiégétiques et extradiégétiques, c'est compliqué.
Et le thème du film, normalement, c'était le titre de College, Real Hero, mais qu'en fait, c'est fait voler la vedette par un titre qui a été ajouté au dernier moment.
Quel enfer.
Vraiment, un mois avant la sortie du film à Cannes, avant la diffusion de Cannes, c'est le monteur qui s'est tourné vers Refn et fait « Eh mec, il y a un nouveau titre qui est sorti, qui est incroyable, qui vient de France, c'est fou. C'est Kavinsky, ouais, c'est fou. »
Alors oui,
et là, c'est Nightcall.
Alors pour l'histoire, c'est que Refn, c'est le Joker sur cette histoire parce qu'il change de version tous les trois jours. Bah, alors que par rapport à Nightcall, c'est une fois c'est sa femme qui l'écoutait, machin, une fois c'est son monteur, enfin bon bref, il change tout le temps d'histoire. Tout ça pour dire que pour le coup, voilà, le highlight de la carrière de Kavinsky, qui est pourtant une escroquerie.
Provient d'un hasard. Quelque part
parce que le reste de ça c'est un enfer mais
alors t'as peut-être une fun fact sur
anecdote sur un concert,
je l'ai vu ouais alors pour le coup dans ma vie précédente je n'ai pas eu le loisir de travailler pour ou à côté de Kavinsky, mais en tout cas je l'ai vu de l'autre côté de la barrière, donc c'est-à-dire d'en bas de la scène, et c'était absolument horrible, enfin je veux dire c'est un des pires concerts que j'ai vu de ma vie. C'est à mettre à côté d'une anecdote de Martin Gamera, que je salue, qui me disait qu'il avait vu Céron en concert, et que le concert de Céron, c'était... Il cherchait ses fichiers sur son iMac. Il dit, hop, c'est celui-là, et il l'envoyait comme ça. Et en fait, Kavinsky, c'était un peu pareil, sauf que cette fois-ci, il essayait de mixer plus ou moins, et qu'il a aucune compétence dans le domaine, et que c'était assez affreux, parce qu'il n'y avait aucune transition entre les morceaux. Ça, vraiment, il s'en foutait.
Ah, oui.
Et vu que les gens se plaignaient un peu et qu'ils rigolaient, bah, en fait, ils nous insultaient. C'est-à-dire qu'il insultait le public pendant le concert, genre « vous êtes
wesh !»
Il faisait des doigts, et puis il continuait. Et voilà, tu vois. Et en plus, les gens attendaient que Nightcall, ils n'en avaient rien à foutre du reste. Enfin, c'était un enfer. Donc voilà, non, c'était un des pires concerts que j'ai jamais vu de ma vie, Kavinsky, pour information.
Point musique.
Voilà, ce qui était relativement cohérent.
Point machine.
Voilà, qui était relativement cohérent avec ce qu'il essaie de montrer en tant que personnage, quand on le voit en interview et tout, quelqu'un d'imbuvable, qui fait... Voilà. Qui faisait une espèce de pre-synthwave extrêmement poseuse, c'était assez affreux.
Ah, clairement. Ouais. Clairement. Et en fait, comme tu disais, la seconde chance pour l'incursion dans le marché américain, c'est grâce à Ryan Gosling, qui a aimé Bronson, qui a aimé Pusher et toute sa trilogie. Et Bleeder aussi, c'est vrai que Bleeder était pas mal, j'aurais bien aimé aussi. Mais bref, en gros, c'est grâce à lui, parce que Ryan Gosling, lui, il a été appelé par
Mark Pilate, ton copain. Fais du sport.
Spécialiste de yoga, mon pote. Donc, Mark Platt, parce que Mark Platt disait, putain, Ryan Gosling, c'est incroyable, c'est un super acteur. Ryan Gosling voulait changer un peu de carrière parce que lui, il était habitué au drame, aux comédies romantiques. Tu sais, il avait fait Blue Valentine de Derek Tim France, je crois, c'est ça, qui avait fait The Place Beyond the Pine aussi. Deux films incroyables, moi j'adore. Il avait fait N'oublie jamais et Crazy Stupid Love, mais il était connu en fait pour être un peu soit. Les trucs un peu comme Alf Nelson ou les trucs comme ça un peu chelou, ou les comédies romantiques. Et en fait, il voulait un truc un peu action en fait dans son catalogue. Et c'est Mark Platt qui lui offre ça. En plus, et ça c'est quand même tout bénef, le choix du directeur. Ça c'est quand même assez ouf.
D'ailleurs, juste pour replacer la vérité, je vais d'avoir un flash. Il faut que je le dise. J'ai dit que l'histoire.
Oh, vas-y.
J'ai dit que l'histoire du mec qui cherchait des fichiers sur son iMac. C'était Céron, c'est absolument pas ça. C'était Giorgio Moroder, pardon. Non, c'était Giorgio. Je rectifie, c'était un concert de Giorgio Moroder où il était sur scène.
Mais non.
Il avait son iMac. Bah, vous demanderez à Martin, il vous la racontera très bien. Il avait son iMac et puis il disait alors c'est quoi ? Hop, c'est celui-là, voilà. Et il enchaînait apparemment les morceaux comme ça, ça devait être assez fou comme expérience quand même. Il m'a révélé cette anecdote quand on parlait de Scarface, pour le coup, donc voilà. Il m'a dit, j'ai vu George Moroder en concert, et c'était atroce. Et voilà.
Oh là là, putain, mais quel enfer. Ah si, putain, oui, la différence du livre, ça, je l'ai déjà un peu évoqué. D'ailleurs, il y a une suite au livre, qui est sortie après le film.
Ah ouais, on connaît la suite, là.
Driven, ça s'appelle. Et en fait.
Ah, comme le. Ah, c'est un film, ça.
Super film avec Stallone. Mmh. Non, mais le truc, c'est que, en fait, ce qui est assez drôle sur ce truc-là, c'est que la suite est un espèce d'ersatz, un peu de. Comment dire, History of Violence.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est un ex-criminel qui est planqué, genre dans un autre état, par rapport à ça, parce que du coup, c'est la suite, hein.
Ouais.
C'est le même personnage qui s'est remarié, tout ça. Et en fait, sa femme se fait buter.
Ouais,
et donc lui il se remet dans une vendetta. D'ailleurs, j'ai tout buté.
Non, parce que voilà, parce que un peu... Drive en soi, c'est un peu ça aussi, quoi. Tu vois, parce que
t'as tué mon meilleur pote, je vais te.
Oui, et puis on sait pas pourquoi, mais on peut se rendre compte assez rapidement, même si le film te le dit pas explicitement, que c'est quand même un type qui a l'habitude d'évoluer dans ce milieu et qui est probablement bien plus violent que juste un chauffeur la nuit, quoi. Tu vois.
Voilà,
donc c'est probablement quelqu'un qui a eu peut-être des grosses responsabilités dans le banditisme avant.
C'est le mec qui s'est dit, ah, moi j'interviens pas dans vos conneries. Hein.
Ouais, ouais. C'est ça.
C'est sa règle. Là.
Au final, bon, tu te rends quand même compte que ça va, il maîtrise assez bien. Quoi.
Après, c'est vrai que le budget 16 millions de dollars qui est extrêmement ric-rac, fonctionne à merveille. Je trouve que pour les meilleurs 16 millions qui ont été investis dans un film.
Ah mais clairement.
Il n'y a pas
on n'a pas vu ça souvent.
Quand je voyais le film... Bah non, et quand je voyais le film, je me suis dit, attends, c'est pas possible que ce soit juste que 16 millions de dollars, quoi.
Mmh.
Et c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une préparation avant le tournage et pendant le tournage, il y avait vraiment un truc de vraiment de pro, quoi.
Ouais, t'imagines, il y a des...
Pour qu'ils arrivent à tout tenir.
Il y a des scènes aériennes qui sont filmées en hélico, enfin, je veux dire, il y a quand même pas mal de trucs. En
oui, c'est
de...
même pas des stock shots. Hein.
Ouais, en plus, ouais. C'est pas des stock shots, pour le coup, c'est vrai. Et c'est un film qui, en plus, devait demander une logistique assez dingue sur le nombre de cascades qu'il y a, qui sont quand même pas du tout reprise, tu vois. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça, et c'est assez incroyable. Chorégraphiquement, c'est assez fou.
Il n'y a pas de CGI. Alors, ils disent qu'il n'y a pas de CGI. Bon, il y a des VFX. Il y a des VFX, mais il n'y a pas d'images, en fait, qui ont été altérées, en fait, de création de modèles.
Et après, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez important. C'est vrai qu'on disait, du coup, comme on voit là, c'est oui, il y a un gros casting, mais il y a un casting avant percé de chacun. Tu vois,
ouais.
C'est-à-dire que c'est pas le Oscar Isaac post-Star Wars.
Oscar Isaac post-Scapunk.
Post-Scapunk. Effectivement, nous allons y venir. Mais voilà. Ah, vas-y. Là, vas-y. Là, t'es lancé, t'es sur la voie, t'es sur l'autoroute.
Mais non, mais Oscar Isaac. Non, mais j'ai vu cette image. Enfin, c'est une vidéo qui est popée sur Twitter, sur mon fil d'actu. Et j'ai vu, en fait, un mec qui a partagé. En 2001, il a trouvé une vidéo. Donc, de Oscar Isaac en guitariste, lead singer. D'un groupe de ska punk.
Est-ce que t'as le nom du groupe?
Et c'est... Non,
peut-être qu'on pourrait l'écouter, ce truc, au bout d'un moment, tu vois.
J'ai la vidéo quelque part.
Ouais.
Je ferai écouter le son. Je ferai écouter le son, mais c'est... Faut voir l'image aussi, c'est 30 personnes, 30 pélos, tu sais. Pensez, le ska, en 2000.
Et c'est en quelle année? C'est en 2000. Déjà, en 2000, le ska, c'était... 2001, c'était déjà has-been, tu vois. Alors, il y a des gens qui écoutent encore ça en 2024, mais bref, n'en parlons pas. Mais il y a des gens, déjà, en 2001, c'était chaud. Tu vois, donc...
C'est incroyable. Enfin, c'est fou. C'est une expérience.
Je suis curieux.
C'est le mec, il avait genre la roue d'Astalska, tu vois, mais en verso Oscar Isaac. C'est le genre de conneries. Non, mais tu vois, c'est fou quand on y pense, quoi.
C'est dingue.
C'est
incroyable. Enfin, jusqu'où tu peux aller avant ta carrière d'acteur, quoi.
C'est un groupe Christian Ska, apparemment. Regardez en même temps. Oh, c'est fou.
Christian.
Alors, on va passer à Karim. Karim, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film? Est-ce que pour toi, c'était quelque chose de culte?
Ouais, culte, peut-être pas. Mais quelque chose qui a été très surprenant au premier visionnage. Alors, on l'évoquait un peu avant de commencer la critique. Mais ouais, c'est un film qui avait été vendu comme un ersatz de Fast and Furious. Hein, et en plus, pas loin, moi, dans ma tête, j'avais fait l'analogie Drive avec les jeux Drive sur PS1. Je m'attendais à un truc de bourrin, oui. Quoi, juste voilà, de la conduite, du braquage, des trucs comme ça. Je m'attendais à ça. Donc, quand je découvre le film, hein, en plus, je découvre avec des amis étudiants, je crois, en un mode, tout le monde est déçu parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Et moi, en fait, j'ai été vraiment très surpris. Et donc ça m'avait grave marqué, ça m'avait grave plu. Alors c'est un film qui encore maintenant en visionnage a d'autant plus fonctionné, c'est un film que j'aime toujours beaucoup. Mais c'est un film que j'aime un peu moins depuis que j'ai préparé Cheatlist et que j'ai dû me renseigner sur le film et que t'apprends en fait que ça démystifie plein de choses. Parce qu'à la base le film c'est un film que j'aime beaucoup parce qu'il raconte quelque chose de très simple, de manière très simple, et juste de manière très esthétisée. tu vois. Et c'était un parti, moi, justement, qui marche chez moi. Un film, justement, qui te raconte une histoire qui est vraiment pas compliquée, hein, qui te fait comprendre les choses en te laissant le temps de faire comprendre les choses. Je veux dire, c'est moi, les silences de Ryan Gosling sont très bien, sont très utiles, te laissent le temps de générer le sentiment, la sensation. Donc c'est un film que j'aime beaucoup, et en plus bah, c'est un film que j'aime beaucoup pour une raison très con. Je crois que j'ai un véritable problème, une fascination pour l'ultra-violence stylisée au cinéma, et vu que j'étais absolument pas prêt à rentrer dans cette démarche là et que j'ai dans une période de ma vie où j'étais très curieux de cette démarche là bah moi ça m'a matché direct, tu vois. Genre j'avais fait la scène de l'ascenseur, moi j'ai pas pu m'empêcher de faire le rapprochement avec Irréversible de Gaspard Noé, donc assez content. Alors,
mais c'est justement, il a demandé à Gaspard Noé.
Tout à fait. C'est pas bah, l'hommage est vraiment là, parce que sur le coup d'un moment t'as les deux films qui fusionnent dans ta tête, je veux dire, c'est, donc ça te remet un degré d'horreur dans le film en fait, enfin d'horreur épidermique, hein, parce qu'on n'est pas sur l'horreur surnaturelle ou quoi que ce soit, t'es vraiment sur, à mon sens, quelque chose de vraiment organique, tu vois. Et c'est un film qui marche ultra bien, je veux dire, il est propre, mais pas dans le sens... Comme souvent on critique, genre il est trop propre, il y a rien, il y a pas d'aspérité. Non, je le trouve très, vraiment très équilibré, très maniéré. Tu vois, je veux dire, c'est pas trop non plus. Parce que je trouve que ça reste accessible. Et donc c'est un film qui bah, prend le temps de te faire ressentir du mood, hein, te fait accepter en fait que t'es juste là en fait pour voir une histoire. Tu vois, et t'es pas là pour le scénar, t'es pas là pour comprendre, t'es pas là pour les enjeux en vrai. Enfin, personnellement, je prends pas le film comme ça, hein. Je veux dire, c'est le personnage fonction est là pour ça, juste pour te faire vivre une histoire. Tu peux tirer plein de conclusions, mais on peut passer la journée à faire ça. Mais je pense que c'est même pas ça. Je pense que c'est l'idée de te faire ressentir cette espèce de béton, enfin, je sais pas, tombage dans la folie. Je sais même pas si c'est ça, tu vois, mais juste un mec est capable de briller. En fait, on s'en fout un peu pourquoi. Et ce que j'aime bien dans ce film, c'est qu'il arrive à te faire donner une espèce de dose de plaisir en regardant des trucs que t'as pas envie de regarder à la base, en fait, je veux dire, t'as pas envie de voir des règlements de compte comme ça, de l'ultra-violence comme ça, ainsi de suite, mais quand même, et je pense que ça passe véritablement, en fait, par la conception, la production du film, en fait, et effectivement, s'il a été encadré à ce moment-là, que ça donne des choses qui sont plus précises, qui sont plus cadrées, qui sont des fois plus millimétrées, ouais, c'est un truc, je trouve, qui est vraiment bien. Et donc, c'est un film qui m'a marqué par la surprise initialement, mais quand même, parce qu'il touche des choses que j'aime beaucoup, en fait, globalement, dans le cinéma. On parlait tout à l'heure de History of Violence, et effectivement, tu vois, c'est History of Violence de Cronenberg, et effectivement, le film, à partir de la moitié, il tourne dans ce délire-là, en fait, tu vois. Alors, oui, hein, je pense que moi, ça m'a. Tu vois la référence permanente, même si des fois, tu connais pas la référence, tu sens que c'est trop poussé pour pas aller rendre hommage ou aller citer quelqu'un, tu vois, tu sais. Mais en vrai, ça va, c'est pas grave. Même quand il tente des trucs, des fois, enfin, je pense qu'il y a plein de moments, des scènes que j'ai trouvé cool en mode, ah, c'est sympa, et en fait, ils seront pas une idée de lui, mais en vrai, c'est pas grave parce que ça sent pas le truc. Appuyé au point de t'as vu j'ai fait ça, c'est juste t'as l'impression que la démarche je
l'ai fait, c'est beaucoup fait. De références quand même, des fois c'est un peu trop je trouve, mais
après j'ai peut-être pas le même bagage pour trouver la référence, donc peut-être que tu vois j'ai pas la lassitude par rapport à ça, mais en soi voilà, tu vois, donc je relance le film hier, hein, pour la préparation, et le film marche toujours aussi bien en vrai. Moi c'est un film qui marche vraiment assez fort sur moi. J'irais pas film culte en fait parce que je vois pas en quoi il, enfin C'est un truc joli à regarder, c'est pas plaisant, c'est pas le bon terme, enfin, d'une certaine manière, tu vois, je veux dire, c'est mes cultes, je sais pas, je le vois pas influençant, même pour moi, hein, je parle même pas au niveau de l'histoire des gens, même pour moi, c'est pas un film qui m'a influencé, parce que justement, en fait, il invente.
Donc tu veux dire que t'avais pas acheté de veste scorpion, du coup, après?
J'avais déjà la veste scorpion, en fait.
Ah, tu l'avais déjà?
Je l'avais déjà.
En fait, c'est un biopic sur lui.
En vrai, si je montre la photo d'un pièce d'identité, j'aurais fait aller trop loin, mais j'ai pas de barbe et j'ai le crâne rasé. Enfin, je suis quasiment chauve, en fait. J'ai eu plein de vie, Mais ouais,
scorpion.
Non, Drive, c'est bien. Pareil, le cast Ryan Gosling, en vrai, je veux dire, c'est... Plus je revois des films avec lui, plus il me fascine, ce monsieur, en fait, je veux dire, cette capacité de non-jeu qui joue de fou, en fait. Voilà,
l'expressivité,
ouais. Ouais, ça, c'est fou, il a une tronche de labrador, mais ça marche super bien, tu vois. mais c'est...
Mais attends, mais il y a aussi, alors on n'a pas dit, mais Albert Brooks, qui joue Bernie. Moi, je trouve qu'il est incroyable dans ce film.
Ouais, il y a Ron Perlman aussi, qui est extraordinaire dedans. Je veux dire, mais non, mais il est...
Ah, moi, je l'aime bien, Ron Perlman, moi.
Parce qu'il se caricature.
Ouais, bon,
il se caricature, c'est génial.
Je vous laisse la carte.
Non, mais je lui en fais des caisses. Mais tout le monde, je veux dire, c'est Oscar Isaac est détestable. L'actrice, j'ai plus son nom, qui joue Irène, là.
Carey Mulligan.
Elle joue la meuf.
Mais c'est le seul personnage qui est sincère de A à Z, tu vois, Carey Mulligan.
Ah, mais elle, c'est la victime, en fait. Genre, elle était là. Elle a pareil, son arc narratif, en soi, il est assez court, parce que tu découvres. Elle a vraiment fini de merde, je sais pas, mais genre tu comprends très vite qu'elle a
pauvre être
un gars, histoire d'un soir, elle s'est fait engrosser, et puis la vie, puis il est parti en prison, et le seul gars qui est vraiment sincèrement gentil avec elle, et tu peux comprendre initialement pourquoi crush sur lui, je veux dire, il est chelou certes, tyran, il est sympa, il est serviable, hein, il aime te comprendre.
Alors après j'ai une théorie quand même, que je pense que c'est lui qui a niqué la caisse, hein, à l'épicerie. Hein. Moi, je pense que tout part de là.
Figure-toi qu'il y a quand même un... Ouais, alors, je sais pas si on peut dire ça, mais en vrai, il y a un truc de stalk quand même un peu bizarre.
Si tu prends le truc du stalker, la grille de lecture du stalker.
Vraiment, parce que, tu vois, il la croise quand même souvent dans plusieurs endroits. Et...
Il reste un peu trop sur les conserves de petits pois.
Et tu vois, il écoute les conversations d'un côté à l'autre du rayon. Enfin, je veux dire, disons que leur relation, elle a rien de hasardeuse. Il a clairement provoqué ça, d'une manière ou d'une autre.
Moi, franchement, j'y crois.
Il y a trop de trucs, tu vois, genre, je sais pas. Mais finalement, elle vient dans son garage, il se retrouve à la ramener. Enfin. Et finalement, il la ramène pas, il l'emmène faire un tour là-bas. Bon, bref, il y a trop de trucs.
Dans les égouts de Los Angeles pour finir dans une flaque de pisse et de chiasse.
Oui.
Pour jouer à faire des ricochets.
Des ricochets. Et finalement, devenir son espèce de chauffeur pour l'emmener partout. Enfin, leur relation, elle n'a absolument rien de hasardeux. C'est un aspect qu'il faut quand même pas retirer.
Chef-d'œuvre.
Voilà. Il parle pas, mais il agit beaucoup quand même.
C'est pas ça qu'on veut quelque part. Tu as des gens qui parlent moins et qui agissent.
Je sais pas, Karim.
Mais c'est ça. C'est ça. Le samouraï. Le vrai samouraï.
Toujours. Pendrive, c'est vraiment un film que je le redis une première fois, mais c'est vraiment un film que j'aime beaucoup. Je n'ai pas vu assez la filmo du réal, mais ouais, je suis assez d'accord sur le fait que ça sort un peu de nulle part. Et je suis assez d'accord effectivement sur ce côté cadre qui rend le film vraiment, vraiment très propre et très beau produit. Donc, juste où je voyais ça tout à l'heure dans le chat, et j'en ai parlé aujourd'hui, machin, les gens qui ont été déçus par la bande-annonce qu'ils ont vue dans le film, je comprends pas.
Ça t'est vendu à la bite. Hein.
Ouais, mais même, tu vois, le concept, ok, tu t'es fait avoir les 5 premières minutes, mais après, je veux dire, t'acceptes que c'était les publicitaires qui t'ont menti, tu vois, c'est pas le réel. C'est juste pour ça, ça m'emmerde toujours un peu quand un film se fait défoncer juste parce qu'il a été... mal vendu. Et je dirais pas qu'il a pas été mal vendu, mais quand même, je veux dire, ces deux-là, je crois qu'il fait presque 2 heures, tu vois, pendant 2 heures, te dire.
1h45,
ouais. Ouais, c'était pas le film qu'on avait vendu, machin, avec Nia. Soit tu sors du cinéma, hein, très clairement, soit tu ne télécharges pas le film, hein, soit tu acceptes au bout d'un moment que, ok, mais t'en veux à Jacques Seguela ou à tous les publicitaires, mais t'en veux pas au réel, tu vois, tu sais.
Ouais. On veut pas.
Ben ouais, c'est
Jacques Seguela, il a rien demandé, là, il va prendre une carte.
Il s'en prend une.
C'est à cause de lui, c'est lui l'origine de tout.
Tiens-toi! Bon, alors, les répercussions du film, donc, ce que je disais, il a quand même plutôt bien fonctionné, il était à 80 millions, je crois, à peu près, et puis, par contre, instant culte. C'est-à-dire que, après la sortie de Drive, ça a été un bordel, parce que ça a été beaucoup cité, ça a été repompé un peu. On a des films qui, grâce au succès de Drive, ont pu se faire. Je pense à Nightcrawler, avec Jake Gyllenhaal, qui est un film incroyable sur les médias. Il y a un truc aussi, c'est que effectivement, il y a eu aussi des jeux vidéo Hotline Miami, hein, comme je l'ai répété à l'intro, qui reprend vraiment l'esthétique de Drive, et Kavinsky qui est devenu notre nouveau Patrick Hernandez avec un seul titre. mais le truc qui est assez ouf, c'est les répercussions un peu, je dirais, au niveau de nous les hommes.
Culturel, dira.
C'est là qu'on va rentrer dans la phase lifestyle.
On va rentrer dans la phase la fameuse life list. N'imitez pas Ryan Gosling.
Non, ne faites pas ça parce que c'est ridicule en vrai.
Parce que, en fait, le film est sorti dans ma vingtaine. J'avais 19 ans quand il est sorti. Alors pour moi, ça a été la Bible.
T'avais des cure-dents avec toi dans la poche.
Exactement. Ouais.
Alors je précise quand même que Luc, je l'ai vu conduire une seule voiture, c'était une 206. Donc voilà. Bon.
Et j'étais pas avec des gants.
Non.
Je les avais retirés. J'avais. Voilà, le conducteur. Le pilote. J'ai envie de dire.
Non, le conducteur.
Le vrai. Mais vraiment, j'avais c'était ah ouais, en fait, faut être mutique et tout, faut être mystérieux. Et tout. En fait, tu te fais passer pour un con.
C'est comme ça qu'on parle aux femmes.
Passer pour un con.
On leur parle pas en fait.
On leur parle pas.
C'est littéralement ce qui est passé dans la tête de plein de gens. C'est terrible.
Qui se sont retrouvés en fait à pas baiser pendant 2 ans. Ce qui m'est arrivé quand j'avais la vingtaine, quoi, en fait.
Voilà, ouais. Clairement. Bah, juste qu'il y a 2-3 mois, tu vois.
Mais... le gros nul. Le gros nulos, quoi. Et non, ça a été terrible pour ma vie. Parce qu'en fait, en plus, j'étais isolé de base de mon métier. Parce que j'étais réceptionniste de nuit à l'époque.
Ah, mais
Laisse tomber l'échec.
Réceptionniste de nuit, ça colle bien avec le film, tu vois. Je veux dire, t'étais un peu un mec qui vivait la nuit, tu vois.
Nightcall dans la réception, mon pote.
T'es derrière ton comptoir, là, comme ça, regarder les gens et tout, sans parler, tu vois. Les gens, ils arrivaient la nuit pour prendre des chambres d'hôtel, et Luc, il leur parlait pas, tu regardais derrière comme ça.
Non, mais mec, vu qu'en plus, c'était à l'époque où je travaillais à Chantilly, donc j'étais dans un hôtel 5 étoiles.
Ouais.
Et ce qui était incroyable, c'était en fait de regarder les stars, regarder les gens. Ouais. Moi, j'étais là dédaigné, je fais.
Et là, t'étais là avec ta veste de scorpion, genre.
Guillaume Canet, je regarde Guillaume Canet, je fais ta mère.
Ouais. Tu sais, juste deux mots. Et après, plus rien, tu vois. Regardez ouais. Les gens, tu leur réponds juste.
Non, je disais juste. Ouais, bonne soirée, monsieur Canet.
Ouais.
C'est déjà
profitez bien, attention. N'hésitez pas, je suis disponible.
Ouais, je vois. Un peu la même vie que dans Drive, clairement. Je vois le rapport.
Pour les problèmes de bouffe et de lavabo, là, je disais, non, je peux rien faire. Allez, ouais. Bonne soirée. Voilà. Il n'y a pas de problème, c'est formidable.
Mais non, effectivement, oui, le film a influencé les gens d'une manière...
A influencé beaucoup de personnes comme ça. Et aussi, ce fameux truc de rouler la nuit, c'est de rouler la nuit et de mettre NyQuil, tu vois.
Bien sûr.
Ce truc de bouffe.
Mais quand tu fais ça, à Los Angeles, c'est stylé.
À Plougastel.
Mais quand tu roules dans les rues, dans le downtown Plougastel, tu vois, c'est pas la même quand même.
Avec la fenêtre ouverte et à fumant ta clope. T'es là. Il y a personne, tu fais chier le voisinage.
J'ai la scène en tête et c'est infernal.
Oh mais c'est horrible. T'imagines, t'es dans un village.
Je te vois le coup d'alerte à la portière de la 206 à Plougastel, ça devait être fou.
Avec mon Sky, tu sais, vraiment, avec mon. J'avais une veste en cuir à l'époque.
Je vois. Putain, c'est incroyable.
Il n'y a pas besoin de faire un dessin.
Vous
réfléchissez au pire Insel, je l'étais.
Vous en avez plein des gens qui ont fait ça. C'est terrible, mais voilà.
Ben oui, c'était fou. Donc voilà, plein de conseils de lifestyle de fou.
Ne faites pas ça.
Attendez, juste avant de passer à la question, la shitlist tout rond, j'ai retrouvé la vidéo. Attendez, je vais juste vous la passer. Alors, pour ceux qui n'ont pas le chat, bon, ça va être la merde, mais je le repasserai dans l'émission de toute manière. Mais préparez-vous, c'est le 2001 du ska. Voilà, c'était pour vous. Donc,
merci.
Oscar Isaac, en ska, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut établir que le film mérite la liste?
Non.
Parce qu'Oscar Isaac a fait du ska en 2001.
Non. Pour plein de raisons, mais surtout pour celle-là, non.
Non. Donc, le film ne mérite pas la shitlist pour Marvin. Est-ce que le film mérite la shitlist, Karim?
Pas du tout, clairement pas.
Ou pas du tout. Donc, le film est sauvé, malheureusement, avec une tentative de procès qui a été finalement ratée. Le film, même 15 ans plus tard, finalement, ne mérite pas la shitlist, était un très bon film. Donc, selon la majorité, le meilleur film même de Refn, à ce qui paraît. Donc, on peut dire, moi je suis pas d'accord, mais on peut dire, on peut le concéder. Merci Marvin, le samouraï, merci Karim. Soutenez-nous sur Patreon, bien entendu, le forfait 3€ chez Netflix Prime qui permet d'avoir l'épisode en avance en sans coupure, le forfait 5€ chez Netflix Plus qui permet d'avoir l'épisode tout en entier et aussi les épisodes bonus, le forfait à 10€, le film, alors là c'est les stickers, c'est tout ça, c'est en plus le remerciement éternel. Merci en tout cas à tous ceux qui nous donnent sur le Patreon tous les mois, vous êtes des amours. Aussi, merci à tous les auditeurs parce qu'on a parlé vite fait des 2 millions, mais merci pour ces 2 millions d'écoutes. C'est quand même un palier assez ouf, on pensait pas l'atteindre, hein, mais on a réussi, voilà. Grâce à vous, merci beaucoup, merci.
Grâce à vous et grâce au hate listening aussi, hein, on remercie aussi les gens qui nous aiment pas,
visiblement.
En fait. Parce que non, mais vraiment, il faut les remercier.
Qui doivent être 5. En fait, dans le bordel.
Ouais, je sais pas, mais en tout cas, ça se trouve.
Mais 5 de plus.
Bah, quoi qu'il arrive, même si vous êtes là parce que vous nous détestez, vous faites gonfler les chiffres et donc on vous remercie aussi. Vraiment. Hein,
ouais, bah ouais, clairement, vous nous faites remonter. Donc il n'y a pas de problème. En tout cas, vous êtes. Merci d'exister. Merci à vous. Et on remercie bien sûr le Hall of Fame le plus important, Seb Natch, Will Stitch, Jérémy Courtement, Jonathan Cassès, Aurel Boer, The Crypt Keeper. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour vous parler de singes. On va parler de la planète des singes de Tim Burton avec un duo d'enfer, moi et Karim.
Vous avez remarqué que tout le monde a refusé.
Personne
a. Oui, non, c'est bon.
J'ai senti dans le chat, tu vois, dans le groupe texte, tu vois, du genre, il y a des limites.
Attends, ouais, alors là, j'en ai une. Là, c'est bon, tu vois, les trucs qui passent, mais là, c'est chaud.
Là, c'est chaud, là, c'est complètement dur. Shitlistpodcast@gmail.com pour les SAV, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Blue Sky, TikTok, Discord, et notre chat, le vrai chat, qui est là à nous parler ce soir avec nous également. Vas-y, Bubz, exprime-toi, n'inquiète pas. Tu veux acheter la voiture de Marvin ? Tu peux l'avoir aussi.
Bien sûr. Il a déjà une tache noire en forme de scorpion sur le dos. Et donc,
ah bah oui, c'est évidemment. Vrai. Une nuque courte.
Et bien sûr.
Il est le driver, le vrai. 5 étoiles sur Apple Podcast, bien sûr, ne fais pas les cons. Podcast Addict ou Spotify. Retrouvez aussi des podcasts comme Le Début de la Fin, dont on va sortir un épisode très prochainement. On l'a enregistré et on va parler, attention, d'une série incroyable. Vous aimiez Le Destin de Lisa ? Voici la version américaine. Prêt pour vous, le fameux Ugly Betty. Mmh. Voilà, nous avons parlé d'Ugly Betty, nous avons philosophé sur Ugly Betty. Voilà pour vous. Et on se dit donc à la semaine prochaine. Allez, salut à tous. Ciao, ciao.
Ciao tout le monde.